Cinérama.
Cette nuit, notre bistrot émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le 15 mai, Steven Spielberg est arrivé en France, il est déjà à Cannes, j'imagine, il est arrivé, j'imagine, aussi sous la pluie. Et donc, aujourd'hui, un cinérama qui va aller un peu sur le terrain de l'horreur. Alors, il y aura l'horreur à l'écran, et puis aussi les films un peu indigestes. Hein, Manu, bonjour. Oui,
bonjour. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Déjà, on commencera donc avec Evil Dead, le remake du film de Sam Raimi. Et puis, moi, je vous parlerai d'un autre film horrible, mais à sa façon, Trans, de Danny Boyle.
Et puis, toi Marine, un film
oui, je
qui n'a rien à voir.
Absolument rien, qui n'est pas horrible d'ailleurs, ni horrifique, ni mal fait. Ce sera Mud de Jeff Nichols.
Et puis moi, je vous parlerai de Mama qui sort aujourd'hui sur les écrans. C'est un film d'épouvante, pas sanglant comme peut l'être Evil Dead. Et puis, ça nous donnera l'occasion de jouer un petit blind test autour des films d'épouvante et dans différents styles, finalement. C'est Cinérama qui débute.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Evil Dead, donc le remake du fameux film de Sam Raimi qui date déjà de 1982, qui a plus de 30 ans. Donc à quoi ça rime de réaliser aujourd'hui un remake d'un tel film ? D'ailleurs, pourquoi réaliser le remake de ce petit film culte qui ne demandait sans doute rien à personne ? La présence de Sam Raimi à la production justifie-t-elle l'entreprise ? Bon, on va pas jouer la vierge effarouchée en criant à la trahison, au scandale, mais pour l'instant, les adaptations des films d'horreur des années 80 n'ont pas été des franches réussites. Les années 70 s'en sont mieux sorties, avec des films que je trouve de meilleure qualité, comme La Colline à des yeux, Piranha, il y avait eu Massacre à la tronçonneuse, et puis le remake de Zombie, aussi L'Armée des morts. Parce que après les décevantes relectures des Griffes de la nuit, de Vendredi 13, de Vampire, vous avez dit Vampire, ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et de Fog, de Carpenter, c'est au tour du génial Evil Dead de subir un nouveau traitement.
J'ai libéré quelque chose de ce livre. Quelque chose de maléfique. Cette chose est liée à l'âme de Mia. Il va falloir qu'on la tue.
Vous allez tous mourir ce soir. Coupe-le ! Coupe-le !
Cherchez, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller.
On dirait une démo de jeu vidéo plutôt.
Oui, ou la bande-annonce de Spring Breakers, mais version zombie un peu.
La palme de la pire bande-annonce de l'année, quoi.
Alors, remarqué pour son court-métrage, Attaquer des Panicos, le débutant uruguayen Fede Alvarez doit quand même se dépatouiller d'un script qui frise l'indigence. Non pas que l'original était un modèle de subtilité, mais au moins Rémy a sauvé son script par un esprit un peu déjanté, présent du début à la fin, un petit côté non pas parodique, mais bon enfant et ludique. Sauf que d'emblée, Alvarez rate son ouverture avec un prologue à mon avis inutile et sans lien direct avec l'histoire. Enfin, un petit peu, puisqu'on voit une jeune fille transformée en démon qui va être brûlée vive par son père. Pire, le cinéaste là-haut, toute surprise pour ceux qui n'auraient pas jamais vu le film de Rémy. Alors, retour au présent, pour justifier la présence de ces cinq personnages au cœur d'une forêt sombre et brumeuse, dans une cabane abandonnée, les auteurs ont imaginé le prétexte superflu d'emmener tout ce beau monde pour guérir l'héroïne de la drogue. Bon, c'est un jeu de mots foireux, ça. L'héroïne de la drogue.
Les rires préenregistrés, Bruno, tout de suite.
Alors, mettre au vert une toxico, c'est tout ce que nous propose alors qu'en fait, nulle justification n'avait lieu d'être. On pouvait franchement s'en passer. Hein. Heureusement, passé une première demi-heure un peu laborieuse, le récit s'emballe et retrouve la frénésie, parfois hystérique, du film de Rémy. Alvarez livre un travail bien fait, conforme aux attentes des amateurs du genre. D'ailleurs, les aficionados du gore qui tâchent en auront pour leur argent. Ce remake est très généreux en la matière. matière et parvient même à éviter le côté aseptisé lié aux effets de synthèse. Il y a automutilation saignante, il y a des énucléations bien crades, les arbalètes qui plantent des clous dans la chair putride des créatures possédées, qui évoquent bizarrement le personnage de Reagan dans L'Exorciste. Moi, j'ai pensé à L'Exorciste avec toutes ces flots d'insultes.
Ah oui.
Si, à plusieurs moments,
bien sucer ma bite. Ouais, bien sucer ma bite.
Bon, divertissant et assez ludique, Evil Dead mixe des deux premiers opus, et même si l'on parvient à oublier l'original, un bon petit film d'horreur, mais qui, malheureusement, ne fait absolument pas peur. Néanmoins, le cinéaste argentin réussit son examen de passage à Hollywood. Il se lâche dans les dernières bobines avec un final sous une pluie de sang, somptueusement réalisé en matière de découpage, de lumière et de cadrage. Un véritable tour de force qui hisse du coup, in extremis, cet Evil Dead dans la catégorie des remakes plus qu'honorables. Et ne ratez pas la fin du générique pour l'apparition de... Bon, je le dis ou je le dis pas, spoiler.
Mais ne ratez pas,
non. Restez jusqu'au bout, vous aurez une petite surprise. Voilà. Ouais. Pour ceux qui connaissent l'original, parce que les autres, ils vont se demander ce que c'est. Ouais.
Mais en même temps, moi je suis plutôt favorable à cette idée du scénario d'emmener quelqu'un qui doit faire sa petite cure de désintox parce que ça laisse... on ne sait pas finalement si le fait de mal vivre ce qui se passe dans cette maison vient du manque de drogue ou si ça vient effectivement de phénomènes paranormaux. Enfin, ça nous laisse un peu sur l'ambiguïté.
Oui, mais alors il aurait dû vite enlever le prologue. Qui
oui,
d'emblée nous donne un peu toutes les clés, on sait ce qui va se passer. Donc ça me semble complètement inutile de présenter la fille qui est toxico. Ou alors on commence par ça sans nous dire que ça va être un film de zombies. Enfin, de zombies.
Sait que ce sera elle qui sera la victime toute trouvée de l'entité.
Oui.
Evil Dead passe encore interdit au moins de 16 ans.
Interdit au moins de 16 ans, puisque j'ai voulu emmener mon fils qui fait la tête et qui a que 13 ans, et il a pas voulu, et ça n'a pas été possible.
Heureusement qu'il y a des lois pour empêcher les mauvais pères d'emmener leurs enfants voir le sang qui gicle sur l'écran. On passe cette fois-ci à l'épouvante.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Conneries, je vous dis, et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Quels moyens ont les réalisateurs pour nous faire peur? Alors, on ne va pas tous les lister, ces moyens, mais si vous allez voir Mama d'Andrés Muschietti, vous verrez toutes les ficelles pour rendre le plus angoissant possible une simple séquence. Par exemple, le film d'épouvante déteste le plan séquence, sauf quand un second plan se dessine, car le film d'épouvante se gargarise des seconds plans. Vous voyez un personnage plein cadre, et derrière lui arrive, sans faire de bruit, le malin, un fou avec un couteau ou un supporter du PSG avec une banderole. Et quand le second plan arrive au plus près du personnage, on peut surligner son brusque mouvement par... Ça fait toujours son petit effet et ça peut vous faire décoller les fesses du siège, assurément. C'est une des recettes, mais pas la seule à l'œuvre dans ce premier film d'Andrés Muschietti qui a étiré un court-métrage tourné en 2008, dont il était l'auteur. Alors soutenu et produit par Guillermo del Toro, ce film bénéficie d'effets spéciaux modestes mais réussis, donc les effets spéciaux, et d'un casting qui l'est tout autant. On reconnaîtra quand même Jessica Chastain en roqueuse brune en mal de maternité. Si le titre évoque la mère, c'est avant tout à deux jeunes sœurs auxquelles nous avons affaire.
Victoria et Lily ont été retrouvées dans un état déplorable, sans leurs parents. Elles ont vécu au moins 5 ans seules dans la nature.
Coucou Victoria.
Le fait qu'elles aient survécu est inexplicable.
Je suis le frère de ton papa. Tu te rappelles, tonton Luc ?
Au sein d'une famille qui les aime, Victoria et Lily ont toutes les chances de reprendre une vie normale.
T'es sûr que c'est une bonne idée ?
Non.
Le mystère plane sur cette survie et c'est précisément l'objet du film, de nous faire pénétrer cette zone d'ombre, d'autant que le plus troublant est à venir. Les deux fillettes, suivies par un médecin et accueillies par leur oncle et sa compagne, ont des comportements étranges et semblent encore en relation avec une entité qu'elles appellent Mama.
Comment réagissent-elles à tout ça ?
Elles s'adressent au mur.
Et elles disent quoi ?
Ça va s'arranger. Je te le promets.
Je crois que quelqu'un leur rend visite.
Formellement, Mama est très réussie, hein, succession de plans inventifs, séquences bien construites, de belles idées pour en montrer suffisamment sans tout dévoiler jusqu'à un certain point. Si une bonne partie du film, la Mama, nous est cachée, le réalisateur prend ensuite le parti de la faire apparaître clairement. Alors quand je dis clairement, ça n'est jamais en plein jour, mais plutôt dans une nuit gothique ou dans les couloirs d'une grande maison mal éclairée, cela va de soi. Les effets spéciaux ne sont pas tout à fait bluffants, mais l'entité est suffisamment bien dessinée, avec un zeste de poésie pour qu'on y croie un minimum. Ses apparitions et ses mouvements sont souvent surlignés par un qui fait, je le rappelle, son petit effet, mais qui pourrait aussi finir par agacer. Alors l'histoire suit son cours avec les personnages en quête d'explications. Tout d'abord le médecin, hein, qui nous explique au début du film qu'il ne se refuse pas de croire aux entités, mais que quand même il a une préférence pour la science et la raison, donc on verra que ce sentiment sera éprouvé. Le personnage de Jessica Chastain, qui est la mère par intérim, qui dans son couple refuse la grossesse et se retrouve avec finalement deux enfants sauvages à aimer, c'est pas facile. Et puis son copain, l'oncle des filles, qui va être un peu écarté de la nouvelle famille, mais qui va jouer pleinement son rôle, car si son frère avait curieusement fondu les plans, hein, le père des filles, lui a plutôt la fibre paternelle, et chacun vivra un rapport particulier avec Mama et découvrira un aspect de son histoire, comment cette entité est passée de vie à demi-trépas.
Elle est ici, dans cette maison.
Qui est Mama Victoria?
Si vous aimez la frousse, courez donc voir Mama, premier film d'un réalisateur qui a plutôt du talent pour fabriquer des histoires simples, avec une esthétique captivante, qu'il s'agisse de l'image ou du son. Alors on pourra regretter quand même que l'aspect enfant sauvage n'ait pas été exploité autant que ça, mais Mama n'est pas non plus un film réflexif, la preuve.
Victoria, il y a quoi sous mon lit ?
Voilà. Donc,
un bon film pour la fête des mères.
En tout cas, une bonne exploitation du son. Alors là, j'ai un peu surligné les effets, mais c'est vrai qu'il y a une bonne exploitation quand même du son et des rapports de plans. Enfin, c'est très bien réussi formellement, en tout cas. Et on sent la petite patte d'ailleurs de Guillermo del Toro au niveau sonore, parce que ça m'évoque d'autres films de Guillermo del Toro. Voilà.
Et le film a eu le grand prix Gérard Maire, d'ailleurs.
D'accord.
Cette année.
Ah oui, prix du public et puis jury, hein, il a tout eu. Et ça sort aujourd'hui, donc dans deux cinémas, ce sera le multiplex Gaumont et le CGR Alate. Et ça nous donne l'occasion, hein, ce film, Mama, de jouer un blind test spécial épouvante. Alors on va aller dans divers genres. Premier extrait.
Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel? Comment peut-on faire?
Vous ne pouvez pas.
Je lui dis des conneries.
Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité.
Tu l'admires, n'est-ce pas?
J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité.
Ça tartine au niveau du dialogue. Et donc, c'est un humanoïde et tu as trouvé...
C'est Alien, hein, de Ridley Scott.
Oui, le huitième passager. Film de 1979, alors effectivement, film d'épouvante quand même, qui se passe en plus dans un vaisseau spatial, enfin, un film de science-fiction. On ajoute les deux. Deuxième extrait, ça n'a rien à voir.
Les mouettes devaient en avoir après le poisson.
Naturellement.
Dépêchez-vous les enfants, finissez vite. Est-ce que les oiseaux vont nous manger, maman?
Peut-être qu'on se laisse tous un peu emporter par cette affaire.
Quelques oiseaux seulement. Ce sont des mouettes, ce sont des corbeaux, des hirondelles.
À ma connaissance, les oiseaux de différents plumages ne s'assemblent jamais. C'est absolument inconcevable. Parce que si cela arrivait, nous serions tous perdus. Comment pourrions-nous les combattre?
Eh oui, ça a été trouvé, c'était facile. Marine! Elle est complètement prostrée.
Non, c'était Manu qui avait trouvé.
Oui.
Je dois reconnaître.
Oui, mais c'est parce que Bruno me l'a dit aussi dans le casque. Donc, c'est...
Les oiseaux, Hitchcock.
Tout à fait. Ouais, Hitchcock, on aurait pu en mettre plusieurs, hein, d'ailleurs, Hitchcock.
Psychose.
Ouais, voilà, Psychose, qui est sans doute le plus... Mais c'était trop facile, encore plus facile.
De toute façon, c'est tellement simple que je préférais vous laisser jouer.
Oui.
Allez-y, jouez.
Celui-ci, il va être pour toi, alors. uniquement des dialogues, pareil, un film des années 60.
Il vous a menti, docteur, en disant que nous partions pour Hollywood.
Ce qu'il y a de plus affreux, c'est qu'il est devenu un adepte à présent. Il dort en pyjama maintenant, il n'en portait jamais avant. Sans doute pour cacher une marque. À tous, on leur fait une marque quand ils entrent dans la secte. Et ils observent toutes sortes de rites. Ils font des sabbats, docteur. Souvent, à travers le mur, je les entends qui chantent. Guy, mon mari, m'a dit que c'était le docteur Chand, un autre de leur bande qui faisait marcher un vieux phono. Puisqu'il était au courant de la présence du docteur Chand, c'est donc qu'il était avec eux, n'est-ce pas? Vous savez, ils sont forts, ces gens-là, terriblement forts. Tout est prévu d'avance, jusque dans les plus petits détails. Il est probable que mon mari a conclu avec eux une sorte de pacte. Ils lui ont offert la réussite et il leur a promis notre enfant en échange pour leur cérémonie de sorcellerie. Oh, je sais que ça doit vous paraître insensé, mais j'ai apporté des livres qui parlent de ces questions.
Ah, c'est vrai que ça paraît insensé, ce qu'elle raconte. Et tu as trouvé, Manu?
Ben, Rosemary Baby de Polanski.
Voilà, donc film de...
68.
68, tout à fait. Un film un peu flippant. Enfin, elle, en tout cas, on a l'impression
très, très
que...
très éprouvant. Voilà. Hein. Oui.
Alors, encore un autre extrait, cette fois-ci, c'est un film des années 2000, Marine. Réveille-toi.
Moi, je m'appelle Ophélia. Qui tu es, toi?
Moi, j'ai tellement de noms, moi. Des noms anciens que seuls peuvent prononcer le vent et les arbres, là. Je suis la montagne et la forêt. Et la terre, je suis... Je suis un faune, votre très humble serviteur, Altesse.
Non,
vous
je
êtes
pas...
la princesse Moana, la fille du roi de Besmora, le roi du monde, et soutira.
Mon père était ailleurs.
Vous n'êtes pas fille d'homme, oh. C'est la lune qui vous a engendré.
Oh, alors tu as trouvé, Marine?
Oui, c'était la viande de pan de Guillermo del Toro.
Voilà, donc il a produit Mama, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce blind test. Alors c'est vrai, comme tu le disais, Manu, hors micro, il fait pas vraiment peur, mais il a un petit côté inquiétant. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de surprises ou de suspense.
Non, mais je crois que c'était pas vraiment le but non plus. Mmh. Je crois que c'était de faire autre chose, un film plus sur l'imaginaire. Petit côté Tim Burton ibérique.
Ouais. Avec un Sergi Lopez qui joue un commandant fasciste de bien belle manière, en tout cas. Quoi? Pourquoi tu souris, Marine?
Non.
Attention, dernier extrait. On est dans les années 80.
Allô?
Salut.
Alors, comment ça marche?
Bien, écoute, je t'appelle de l'hôtel, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je ne pense pas pouvoir rentrer avant 9 ou 10 heures.
Ça y est, tu as le boulot?
Oui. Oui, c'est un endroit très beau. Dany et toi, vous allez adorer.
Tony, pourquoi tu veux pas venir à l'hôtel?
Je sais pas.
Si tu le sais, dis-le-moi, je t'en prie.
Je vais pas te le dire.
Je t'en prie.
Non,
je t'en prie, Tony, dis-le-moi.
Musique omniprésente, une bande sonore qui, moi, m'avait vraiment impressionné quand je l'avais vue à l'époque. Ça a été trouvé, Manu?
Bah, c'est Shining, j'ai reconnu de suite parce que c'est Jean-Luc Trintignant qui double Nicholson.
Et ça, c'est l'avantage aussi de voir les films de Kubrick en VF, c'est que le doublage est absolument merveilleux, que ce soit les petits rôles ou même les grands rôles. Enfin, lui, il préférait, Kubrick, qu'on s'attache à l'image et qu'on n'ait pas de problème à lire les sous-titres. Voilà. Pour peu qu'on ne soit pas anglais, effectivement. Donc, c'est un... Voilà, j'ai tenu à terminer avec celui-ci parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. The Shining. Ainsi s'achève ce blind test où Marine n'a pas brillé.
J'ai fait pas trop en forme.
Mais quand même 4 points, voire 5 même. On aurait pu donner celui du labyrinthe de Pan à Manu.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Et on passe à présent à Mud qui était en compétition à Cannes en 2012 et qu'on retrouve donc en salle au moment de Cannes 2013, ce qui semble logique pour les distributeurs. Alors Mud s'apparente à ce qu'on pourrait appeler les films du Bayou, une sorte de sous-catégorie du cinéma américain dont l'action se déroulerait dans les marais du Sud. Et comme souvent dans ces films, il est question à la fin d'une ère du démantèlement des maisons flottantes jugées non conformes aux normes de sécurité depuis l'ouragan Katrina. Mud est ainsi construit en forme de compte à rebours sur fond duquel nous suivons deux jeunes garçons, Ellis et Nick Bonne, sorte de Tom Sawyer nouvelle génération qui explore les bords du Mississippi. Au cours de leur pérégrination, ils découvrent une île supposée déserte et un bateau posé par l'ouragan entre les branches d'un arbre. Bateau qui s'avère habité par un étrange vagabond, Mud. Mystérieux et charismatique, Mud est pétri de superstitions et vit caché du reste du monde, en espérant pouvoir un jour remettre le bateau à l'eau. Fascinés, les gamins acceptent de l'approvisionner, d'abord en nourriture, puis en lui volant des pièces nécessaires à la reconstruction de son bateau, fascinés par ce Robinson Crusoe qui sait très bien comment les faire rêver. Car Mud est une sorte de chevalier solitaire, il a tué par amour pour la femme qu'il aime, Juniper, et sa tête est à présent mise à prix par des mafieux, raison pour laquelle il vit reclus sur son île en attendant le moment où il pourra s'enfuir avec sa dulcinée. Séduits par ce modèle de bravoure, les deux garçons s'impliquent de plus en plus dans l'aventure, mais des zones d'ombre ne tardent pas à apparaître. Juniper s'avère être davantage une white trash paumée qu'une princesse à secourir, et le héros en question a une mauvaise réputation de mythomane. Ce nouveau film de Jeff Nichols, très encensé réalisateur de Take Shelter, creuse un peu plus son style, dont la principale caractéristique serait de dépeindre une Amérique profonde tout en sondant l'âme humaine. La trame et les personnages qui la constituent ont d'intéressant le fait de tous participer à leur manière à l'éducation sentimentale des deux garçons. On retrouve ainsi autour d'eux un oncle dragueur, interprété par Michael Shannon, acteur fétiche de Nichols et déjà vu dans Take Shelter, ainsi qu'un ancien sniper rongé par la mort de sa femme, un couple de parents en plein divorce, une jolie fille dont le héros tombe amoureux. Le côté initiatique du scénario pimente ce film un peu difficile à classer, un peu polar, un peu drame social, mais qui reste toujours filmé à travers les yeux des deux gamins, ce qui est d'ailleurs censé constituer sa particularité, enfin la particularité du film. Moi, c'est ce qui m'a personnellement un peu dérangé, mais je crois en fait tout simplement que j'aime pas les films dont les héros sont des enfants. En fait, ça me saoule. Non, mais clairement, ça me saoule.
Oh, tu n'es pas prêt à être mère.
Malgré une lenteur certaine, le film est juste, la réalisation sûre d'elle, suffisamment pour prendre son temps et pour conserver un tempo très calme, parfois presque ennuyeux. On reste un peu sur notre faim quant aux personnages, souvent moins creusés qu'on l'aurait souhaité. Je pense notamment à la copine de Mud, donc interprétée par Reese Witherspoon, qui demeure assez lointaine, assez fantasmatique, alors qu'on aurait aimé l'avoir davantage en fait à l'écran. Alors, néanmoins, malgré les reproches légers qu'on pourra adresser au film, il est vraiment réalisé, interprété avec talent, au point que l'on finit par se dire que ce sont ses défauts finalement qui font son style et sa qualité. Et puis il sert une fois de plus à prouver que Matthew McConaughey a réellement très bien réussi son comeback, puisque, rappelons-le quand même, c'était un peu le Hugh Grant américain dans les années 90, l'abonné des comédies romantiques bien commerciales, et puis après une décennie de silence radio, il a réussi à revenir dans des films indépendants, à se constituer une réputation toute neuve. Depuis 2 ans, on le voit partout, surtout dans les bons films d'ailleurs, chez William Friedkin, chez Soderbergh, dans Paperboy à Cannes également l'année dernière. Un peu comme Reese Witherspoon aussi, puisqu'elle avait réussi son virage artistique avec Walk the Line. Après, s'est fait connaître grâce à La Revanche d'une blonde, élu récemment meilleur film de tous les temps par le magazine Watch and Listen devant Citizen Kane. Oh. L'information est tombée hier. C'est triste, mais c'est comme ça.
Watch and Listen.
Tout à fait, un magazine extrêmement respecté qui a sondé ses lecteurs.
Mmh. Lectrice surtout, donc.
Je ne sais pas, mais je trouve ça un petit peu sexiste, ce que tu tiens comme propos.
Après, que Citizen Kane soit le meilleur film de tous les temps, ça, j'y crois jamais.
On en est un peu revenu,
franchement,
oui.
Franchement, ouais. Enfin, c'est plus possible, à mon avis.
Oui, et puis on sait très bien que sur 100 personnes interrogées, il y en auront 5 qui l'auront vu, donc
oui, voilà,
quand même être un peu réaliste.
C'est un peu, oui, quelle chaîne de télévision tu regardes ? Arte, oui. Alors que bon...
Qui en plus ne le passe même plus, donc... Voilà.
Et finalement, on regarde TF1 et en France 2, on ne le dit pas. Enfin bon, bref... Tu vois, l'analogie. C'est Cinérama, hein. On parle de télévision, mais parfois aussi de cinéma.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bon, Citizen Kane, c'est quand même un grand film par rapport au trans.
Oui, mais de là qu'il soit number one.
Non, mais il y en a plein. On va dire, il y a les 50 meilleurs films du monde, ou les 100. Voilà. Ouais. Alors le nouveau Danny Boyle est arrivé. Ce cinéaste anglais qui sévit en fait sur les écrans depuis 1994 avec son fameux, ou fumeux comme vous voulez, Petit meurtre entre amis, bénéficie toujours d'une cote de popularité jamais démentie au cours des années. Enfin, j'ai jamais bien compris cet engouement pour ce pseudo-artiste qui est au cinéma ce que le Beaujolais est au vin. C'est-à-dire un cinéma superficiel qui se rêverait jeune éternellement, qui pique un peu et abrutit les tympans. Danny Boyle essaie de capter l'air du temps avec des trips fun et futiles, mais il paraît désormais has-been, avec son style clippé et sans saveur, un enchaînement ininterrompu de plans sophistiqués et gratuits. Je sais que les admirateurs de Trainspotting m'en voudront de sortir ma langue de vipère, ils sont nombreux. Mais tous les films de Danny Boyle, même les plus intéressants sur le papier, sont souvent gâchés par cette volonté consensuelle de vouloir plaire au plus grand nombre.
Je vais vous demander de fermer les yeux. Imaginez que vous êtes dans un ascenseur. La cabine est vaste, il y a une épaisse moquette et du velours au mur. Les portes se ferment.
Vos paupières se font lourdes.
Alors que le sommeil vous gagne et que l'ascenseur commence à descendre, vous comprenez que c'est l'ascenseur de la relaxation. Vous êtes au troisième sous-sol. Vous continuez à descendre. Vous pourriez sortir, mais vous voulez continuer et descendre de plus en plus profondément dans la relaxation. Et vous pensez peut-être que vous ne voudrez jamais sortir. L'endroit est si sûr, si confortable, si reposant.
Je ne veux plus parler à Simon maintenant. Bordel ! Je veux parler à ceux qui nous écoutent.
Et qui m'ont fait du mal.
Oh putain.
Bon, vous avez compris, il s'agit d'une histoire d'hypnose. Donc avec son esthétique de pacotille qui confond élégance formelle et kitsch clinquant, Trans touche définitivement le fond. Danny Boyle, avec son ouverture ultra-speed, tente d'ailleurs de réitérer la formule aujourd'hui datée de Trainspotting. Voix off qui débite des infos à la vitesse de la lumière, rythme frénétique, images ultra-léchées, musique un peu technoïde de pacotille, le tout sur une distanciation plus pénible que classieuse. En 5 minutes de surchauffe aussi efficace qu'inutile, Boyle montre les limites de son cinéma. Mais la suite est bien pire. Ce cocktail indigeste de sexe, art, manipulation et hypnose, en dépit de l'apparente complexité d'un récit à tiroir et d'une rare vacuité. Pour faire simple, il s'agit d'une histoire tarabiscotée de cambriolage d'un tableau de Goya le jour de ses enchères. Un commissaire-priseur cache le tableau convoité par les voleurs et reçoit un coup sur la tête. Il est alors victime d'une amnésie temporaire, enfin uniquement liée au vol. Les malfrats le kidnappent et l'emmènent en séance d'hypnose chez une experte incarnée par une Rosario Dawson à côté de la plaque. Bon, dit comme ça, ça a l'air absurde. Eh bien, à l'écran, c'est encore pire. Et la suite nous embarque dans une série de twists, tous plus incongrus les uns que les autres. Avec, à mon sens, un grand moment de n'importe quoi, dont je ne sais toujours pas s'il faut en rire ou en pleurer, une séquence tout droit sortie d'une comédie non sensique, un peu genre « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Ben, l'experte en hypnose, très excitée, dit au héros, enfin avant d'aller au lit, au héros amnésique, dans l'intimité d'une chambre, je sais ce que tu aimes. Elle s'éclipse dans la salle de bain et là, on entend le bruit d'un rasoir électrique. On se dit non, c'est pas possible. Danny Boyle a pété un plomb, il y a un truc. Eh bien non, l'héroïne revient, tout épilée, pour les beaux yeux de son amant qui attend impatiemment le retour de sa muse, assis sur le lit. Cette scène de full frontal atteint des summums de ridicule. Cela dit, elle a ses fervents admirateurs, puisque dans Mad Movies, j'ai lu ceci. La nudité transfigurée de Rosario Dawson, tout droit sortie d'un tableau de la Renaissance, et encore... et de moments de poésie graphique à la fois incroyablement sensuelle et graphique. Bon, j'en reste un peu sans voix parce que j'avais un peu envie d'éclater de rire à ce moment-là.
Ah oui, en plus, puis son corps, qui n'est pas le sien, je pense.
Qui n'est pas le sien, c'est tellement évident.
On a l'impression qu'il est travaillé avec Photoshop, c'est juste ridicule, quoi. Enfin bon.
Donc lorgnant, à mon avis, maladroitement, du côté de David Fincher, période Fight Club. Il y a ce côté un peu film de trans. Trans est un beau nanar de luxe, creux et prétentieux, qui fisse vraiment de n'importe quoi sur une dernière demi-heure apocalyptique en matière de retournement de situation idiot. C'est vrai que la dernière demi-heure, je crois j'ai rarement vu autant d'invraisemblances qui se succèdent.
Ouais, et puis il y a une grosse scène, ça se termine par une grosse scène d'action qui là aussi est invraisemblable, voilà. Mais bon, comme quasiment tout le film est invraisemblable.
En fait, on aurait pu se réveiller, un des héros aurait pu se réveiller à la fin et ceci n'était qu'un rêve.
Oui. Je pense que, c'est un peu ça.
C'est un peu ça.
puis ça devient un petit peu répétitif d'avoir encore Vincent Cassel dans le rôle du méchant des films américains.
Il est pas vraiment méchant.
C'est pas vraiment le méchant. Il y a une ambivalence. Pourtant, il a quand même l'air.
Il y a une ambivalence sur les personnages. Ils sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Le méchant est pas si méchant. Le gentil est pas si gentil. Enfin bon.
Oui, ouais, c'est ça.
C'est peut-être.
Et la psy n'est pas si.
Il y a que ça qui est intéressant.
Psy n'est pas si psy.
Oui, il y a que ça qui est intéressant en fait, je crois.
Sur les personnages qui sont pas ce qu'ils ont l'air d'être.
Ouais. Mais après, formellement, c'est vrai que c'est un peu dur à suivre. Et puis dans le fond, enfin l'histoire, nous, on a passé un quart d'heure à débriefer quoi. Enfin parce que c'était pas évident. À tout comprendre.
Et bien, vous n'êtes pas les mecs de Man Movies qui ont beaucoup aimé.
On trouvait beaucoup de beauté. Dans, voilà,
et c'est bien, mais en même temps, dès qu'on leur fout une meuf à poil dans les films, ils sont contents à Man Movies.
Voilà, c'est la phrase qu'on va extraire de cette émission aujourd'hui. Elle est signée par Marie.
On le sait.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
On termine par l'agenda avec ce soir, mercredi 15 mai à 19h45 au Diagonal, c'est dans le cadre d'Arabesque et c'est gratuit dans les limites des places disponibles. Jérusalem de East Side Story de Mohamed Alattar et il y aura une conférence débat ensuite organisée par le collectif Palestine 34 avec, avec du monde, hein, avec du monde, il faut y aller.
Ah oui,
oui. À l'Utopia ce soir à 20h, Tchao Habiba, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice Sarah Benilouche. Demain, jeudi 16 mai, au Diagonal à 17h40, c'est Chinatown de Roman Polanski. C'est en suivi d'un débat avec Christian Leduc, qui est chercheur à l'IRD en hydrogéologie. Et oui, tous les prétextes sont bons pour parler d'hydrogéologie. Au Diagonal aussi, le jeudi 16 mai à 19h45, c'est un cycle de cinéma latino-américain avec Enfance clandestine de Benjamin Avila, qui est sorti la semaine dernière, je crois. Et donc après, il y aura un petit débat avec le collectif Alba Amérique Latine. Et puis jeudi 16 mai encore à 20h30 au Ciné-Comédia, ça c'est à 7, c'est l'Atchodrome de Tony Gatliff. Il y aura madame Pascale Faure qui est ethnologue, donc pour parler sans doute du monde gitan, enfin voilà, autour de ce film de Tony Gatliff. Et puis encore le 16 mai, demain, jeudi, c'est La Grande Boucle réalisée par Laurent Truel avec Clovis Cornillac et Woody Lanners. Ça, ce sera au CGR Latte à 19h et à 20h au Gaumont.
Et nous serons demain matin à la projection presse ainsi qu'à la rencontre presse
avec Clovis Cornillac.
Clovis, maintenant on peut juste l'appeler Clovis.
C'est vrai qu'il vient régulièrement.
On le connaît tellement.
Ça fera juste la troisième fois qu'on le voit. Vendredi 17 mai à 18h, cette fois-ci, c'est deux sessions de Ben Levin. Et puis voilà, il y aura un petit débat ensuite.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
On est d'accord, on ne va pas à Cannes encore cette année, donc on ne rapportera
si,
aucun.
Moi oui, j'y vais.
C'est vrai,
moi si, j'y suis samedi et dimanche.
Ah, mais tu vas nous rapporter
des
choses.
Je fais un petit passage éclair, juste pour me montrer un peu, pour faire plaisir à mon public.
Okay.
Et du coup, je vous raconterai ça peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et à suivre, l'émission 24 notes secondes consacrée au film en Russie.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.